enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je crois que c'est extrêmement important et même prophétique d'avoir ce frère qui partage ce témoignage au mois de juillet qui s'en vient 2007. Le président du Burundi, qui a donné sa vie au Seigneur, qui est un chrétien, a demandé au pasteur Carter Condon de New York et à moi, je vais aller avec lui, il va avoir toute une équipe de New York qui va être là aussi, d'aller apporter une conférence. Ils appellent cela la conférence du président. Elle va être retransmise à la télé nationale, à la radio nationale, et ils nous ont donné comme thème d'apporter des messages sur la paix et sur la réconciliation. Et il y a quelque chose qui prend place en ce moment. Tous les observateurs africains savent qu'une des choses qui prend place en ce moment, c'est qu'il y a des dizaines de milliers et de centaines de milliers de personnes comme notre frère qui ont fui les différents pays d'Afrique, que ce soit le Rwanda, le Burundi et d'autres qui ont connu des génocides, qui ont réussi à quitter juste à temps pour sauver leur vie, mais qui ont vu leur famille être massacrée et qui sont par milliers dans des pays africains avoisinants. Et sans une intervention de Dieu dans les cœurs, ce que beaucoup de gens voient, c'est que c'est un cycle africain qui prend place, c'est qu'il y a un génocide, et il y a les morts, il y a les milliers qui quittent, et leur cœur est tellement rempli de haine, de colère, que tous les observateurs voient qu'il y a toutes sortes de revanches qui se préparent, toutes sortes par milliers d'efforts et d'armements qui se préparent pour des moments fatidiques où ils retourneraient dans le pays. Le président du Burundi, par exemple, est très conscient qu'il y a autour d'eux des dizaines de milliers de personnes qui sont armées, qui reçoivent des fonds même, et qui se prépareraient, leur cœur tellement meurtri, leur cœur tellement dans la haine, qui se prépareraient à revenir pour continuer le cycle qui est là depuis des milliers d'années. Notre frère est ici ce matin comme un témoignage à chaque personne qu'il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une association comme l'ONU ou un autre qui peut empêcher ce cycle-là de destruction. Mais Jésus-Christ peut l'empêcher parce qu'il peut changer le cœur de 1 et de 10 et de 100 et de 1000 et de centaines de milliers. Combien croient que le pardon de Dieu déversé dans les cœurs peut arrêter ce cycle infernal? Est-ce qu'on peut applaudir ensemble la grâce de Dieu qui change un être humain, comme ce qu'on a vu ce matin? Alors, priez donc pour tous ces efforts vers l'Afrique qui vont se multiplier dans l'année 2007 et dans les années qui sont devant nous, dans la grâce de Dieu. Tournons ensemble dans la parole de Dieu au livre de la Genèse. Nous allons lire une portion dans quelques instants du chapitre 41 et 42 de la Genèse. Nous sommes dans cette série sur le rêve de Dieu. Je prends un moment ce matin pendant que vous, ici à Longueuil, vous tournez dans Genèse, chapitre 41. Je veux saluer ce matin plus de 100 000 personnes qui suivent et écoutent des portions de messages et suivent cette série de messages à la radio et sur Internet. Et nous recevons de plus en plus de courriels. Il nous est impossible de répondre à chaque personne, mais seulement dans le mois de mars. Alors, j'ai pensé simplement leur répondre ce matin dans l'introduction, les saluer, leur offrir nos prières et notre amour, notre affection. Mais juste dans le mois de mars, j'ai la pile, juste dans le mois de mars, de gens qui écrivent de partout à travers le Québec. Abitibi, on a reçu des emails d'Abitibi, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Saguenay, La Beauce, Québec, Trois-Rivières, Rive-Nord, jusque dans les Hautes-Laurentides, et de 15 pays francophones dans le mois de mars qui nous ont écrit pour dire on suit le message, le rêve de Dieu de France, Suisse, Belgique, Haïti, Tahiti, Israël, du Liban. Des lettres extrêmement touchantes de gens qui sont au Liban, qui vivent dans des conditions horribles et qui sont chrétiens, évangéliques et qui écoutent ces messages, qui sont comme une bouée d'espoir pour eux, de Guadeloupe, de Guyane française, ainsi que de nombreux pays africains, dont nos frères et sœurs du Burundi qui nous attendent et préparent les efforts de cet été. Je crois qu'un des plus grands miracles qui prend place, c'est un miracle de traduction. Il faut que Dieu leur donne un don d'interprétation pour comprendre mon québécois, mais Dieu semble réussir à le faire. Alors, est-ce qu'on peut saluer ensemble la francophonie ce matin qui est à l'écoute de ces messages? Dans cette série de messages sur la vie de Joseph, qui va devenir un livre que je vais écrire dans les prochaines semaines et mois, qui va paraître dès le mois de septembre, un livre sur le rêve de Dieu, nous avons découvert ensemble la puissance et la potentialité du rêve de Dieu dans chacune de nos vies. La protection, comment protéger le rêve de Dieu. La patience et la persévérance pour l'accomplissement du rêve de Dieu. Nous avons regardé ensemble la préparation pour le rêve de Dieu. Comment Dieu prépare son rêve en nous. Il y a des choses en nous qu'il transforme, afin de que nous puissions nous approprier de son rêve. Parce que bien souvent, l'ennemi, le plus grand, la plus grande opposition, le plus grand empêchement, au bloquement, au blocage, au rêve de Dieu est en nous. Et dans des attitudes, dans des comportements, dans une incrédulité, dans des liens du passé que nous avons, des choses qui sont à l'intérieur de nous. Alors, nous avons vu ensemble comment Dieu, dans son amour et dans sa connaissance parfaite de chacun d'entre nous, permet les événements de nos vies, utilise les événements, même les plus tragiques et sombres de nos vies, afin de préparer son œuvre en nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce que j'appelle le partage, la proximité, et les relations personnelles pour le rêve de Dieu. Ceux qui écoutent le message par le truchement de l'Internet, ici à Longueuil ce matin, nous avons fait la présentation d'un ministère de partage, de petits groupes où des centaines de personnes sont appelées à entrer dans cette dimension-là de partage. Et nous rappelons à travers tout le message de Joseph comment les choses extérieures avaient une importance, mais ce qui était le plus important, c'est les étapes, les face-à-face que Dieu permettait, qui prenaient place dans la vie de Joseph. Le psaume 105 nous dit, par exemple, que oui, il a été vendu comme esclave et on a mis des fers à ses pieds, mais c'est lorsque le fer non seulement était à ses pieds, ça c'est très extérieur, mais le fer, ce qui prenait place extérieurement, a commencé à entrer en lui. Lorsque le fer a été coulé dans son âme, est entré, a mordu son âme, c'est là que la parole de l'Éternel le testait, le mettait à l'épreuve jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Il y a une succession de face à face dans la vie de Joseph pour l'accomplissement du rêve de Dieu, de face à face à laquelle personne ici ne peut se soustraire. Que si vous cherchez à éviter ces face à face, vous allez faire du surplace, vous allez être condamné toute votre vie à ce que le rêve de Dieu soit toujours au bout de vos doigts, mais semble toujours s'éloigner de vous. Ces face à face sont cruciaux pour l'accomplissement de Dieu dans nos vies. Dans la vie de Joseph et dans notre vie, il y a ces face à face. Joseph les a traversés et la succession et l'osmose de tous ces face-à-face font de nous des hommes et des femmes de Dieu. Un face-à-face avec son passé, un face-à-face avec ses peurs, les choses qui nous font peur, les choses qui nous garderaient loin, nous garderaient intimidés, nous garderaient paralysés. Face-à-face avec le péché, face-à-face avec certains aspects de sa personnalité qui devaient être façonnés, changés, brisés s'il était pour accomplir l'œuvre que Dieu l'appelait à faire. Le face-à-face avec la patience et la persévérance, le face-à-face avec ce qui semble perdu. Tout le monde qui court après et qui poursuit passionnément le rêve de Dieu va vivre des moments où il semble que ce que moi je pensais qui était le rêve de Dieu est perdu, est terminé, semble être arrivé à sa fin. Et tu dois entrer dans une dimension où les versets qui étaient intellectuellement assimilés doivent descendre dans ton âme. Que les voix de Dieu sont au-dessus de mes voix. Que la sagesse de Dieu est au-dessus de la mienne. Et lorsque Joseph a perdu, a semblé perdre son rêve, que dans des moments on pense que le rêve que j'avais est perdu, nous avons toujours le choix de nous recroqueviller sur nous-mêmes, de nous tourner en position fœtale spirituellement, de dire, moi je meurs ici, je suis dans l'amertume, je suis dans la colère, je l'accepte pas et je vais mourir ici, ou de me relever et de dire, en ce moment, ce que moi je pensais qui était le rêve de Dieu semble perdu, mais les voies de Dieu sont au-delà de ça, et tout le monde ici témoignerait que lorsqu'on s'est mis à poursuivre Dieu, lorsqu'on pensait avoir perdu, ce que Dieu nous donne et ce que Dieu nous redonne est toujours infiniment plus grand que n'importe quoi qu'on pensait avoir perdu. Face à face avec ce qui semble petit, ce qui semble tellement en dessous du rêve de Dieu à laquelle Dieu m'appelle, à être fidèle dans ce qui semble si petit, en dessous du rêve de Dieu. Et alors que je traverse tous ces face à face, j'arrive à une portion extrêmement importante dans la vie de Joseph. Un face à face avec le partage, la proximité et les relations personnelles. La lumière de Dieu va maintenant luire, va maintenant briller. Et Dieu entre dans la vie de Joseph puis entre dans votre vie ce matin. Comme un invité magnifique, Dieu entre dans votre vie ce matin. Puis vous savez, lorsqu'on a des invités, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais pas vraiment chez nous maintenant. Mon épouse elle tient la maison de manière extraordinaire. Ma mère était super aussi, mais je suis en train de faire du trouble à ma mère, là, alors c'est pas correct. Mais disons, chez nous, il est arrivé dans ma jeunesse qu'il y avait des invités, puis ma mère, elle choisissait quelques pièces qu'elle nettoyait, puis elle mettait le reste dans une autre pièce. Ça l'offre à la potuyale. As-tu des moments? Disons que c'est pas vous, mais vous connaissez quelqu'un comme ça. Levez votre main. Vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà arrivé. C'est du folklore québécois. Peut-être c'est juste des légendes. Mais nous, il y avait une pièce que tu vas pas là parce que le reste de la maison est correct. Mais si tu vas là, ça va te tomber dans la face lorsque tu vas ouvrir la porte. Mais le Seigneur, nous avons tous des portes fermées dans nos vies. Mais ce matin, le Seigneur doucement entre. Le divin invité entre. Puis il commence à ouvrir toutes les portes. Puis d'entre vous, vous êtes debout à côté d'une des portes. Vous vous dites, non, pas celle-là, Seigneur. Mais avec douceur, Dieu entre. Puis il va faire briller sa lumière. Afin que le rêve de Dieu s'accomplisse en vous. Et on arrive dans un moment, on va prendre un récit, on va lire le texte biblique dans un instant. Mais Joseph est à un moment où là, il est dans l'accomplissement de son rêve. Ses frères l'ont, il a déclaré son rêve, sans trop savoir où tout cela le mènerait, sans en comprendre toute l'ampleur et la signification. Ses frères l'ont méprisé, il a été jeté dans un puits, il a été envoyé comme esclave, il a continué à servir Dieu dans la maison d'esclavage. Dieu s'est mis à l'élever et à le bénir. Il a été accusé injustement, rejeté en prison, dans la prison à côté du palais, à un endroit qui ressemblait au puits dans lequel il avait été jeté, pensant qu'il revenait à la même place qu'avant. Mais alors qu'il a été fidèle, Dieu l'élève dans, il interprète le rêve, il aide quelqu'un d'autre, des prisonniers qui étaient avec lui. Il était sous sa charge et alors qu'il les aide, eux remontent au palais et 2 années plus tard, le roi a un rêve qu'il doit interpréter. Personne ne peut l'aider. Alors on va chercher Joseph et là il se retrouve, il explique au roi ce qui va prendre place. Il a une vision prophétique de comment il va arrêter la famine dans le pays. Et alors qu'il est là, on va le retrouver dans un instant, il est là dans la prospérité. Il est là dans un endroit, le texte qu'on va lire, Joseph est dans un endroit où il est en train d'accomplir le rêve. Il a vécu tellement de misère, et là il est bien. Et Dieu va commencer à faire briller sa lumière et l'amener dans une dimension qui est la dimension des relations avec les autres. Sa relation avec les personnes qui l'ont blessé. Sa relation avec des gens qui l'ont déçu. La relation avec des situations qu'il avait juste accepté que ça va être comme ça pour de bon. Avec des façades qu'il a, avec des masques qu'il a, avec des manières qu'il a de rester en contrôle de tout et de ne pas risquer la méfiance qui est maintenant dans son cœur, l'incapacité de faire confiance qui est en lui. Et Dieu va mettre son doigt sur son cœur et va l'amener avec amour dans la prochaine étape de l'accomplissement du rêve de Dieu. On retrouve Joseph dans Genèse, chapitre 41. On va lire à partir du verset 53. Si vous n'avez pas vos Bibles, le texte va apparaître à l'écran à partir du verset 53, nos amis au PowerPoint. Les 7 années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte vinrent à leur terme, et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait annoncé, verset 54 de Genèse 41. Il y avait famine dans le pays, mais dans le pays d'Égypte, il y avait du pain à cause de Joseph. Et quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez, trouvez Joseph, faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans le pays. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. La famine devenait de plus en plus forte dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays arrivaient en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. On arrivait de tous les pays vers lui, car la famine était devenue forte dans tous les pays. Chapitre 42. Nous retrouvons Jacob, qui est le père de Joseph. Il pense que Joseph est mort. Il pense qu'il a été dévoré par des bêtes. Et lui est en train de souffrir de la famine aussi. Alors Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du froment de l'Égypte. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, car il disait qu'il pourrait lui arriver un accident. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient dans cette intention, car c'était la famine dans le pays de Canaan. Joseph, verset 6, était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tous les peuples du pays. C'est incroyable. Lisez bien les prochains mots et souvenez-vous de la vision que Joseph avait eue au début. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et leur dit, « D'où venez-vous? » En québécois, « D'où est-ce que vous venez, vous autres? » Regardez ça un instant. Le jeune homme avait un rêve, ne comprenait pas. Il avait eu un rêve où il voyait ses frères avoir besoin de lui, son père et ses frères, littéralement prosternés devant lui, avoir besoin de lui, et lui être dans une position pour les aider. Et là, il se retrouve à cet endroit. Joseph se retrouve à cet endroit où son rêve est accompli. Dans les versets précédents, il y a vous lirez à la maison, il y a des moments où on voit à quel point l'état de cœur de Joseph. Joseph était juste bien, était juste reconnaissant à Dieu. Il a eu un fils, puis il a nommé, deux fils, puis un de ses fils, son nom signifie « Dieu m'a fait oublier ». Dieu m'a fait oublier ma douleur. Je suis bien maintenant, je suis gouverneur, je suis marié, je travaille à l'accomplissement de mon rêve, je me suis établi dans la vie. Et lui, il dit, voici mon fils, je le nommerai car Dieu m'a fait oublier. Puis son deuxième fils, il dit, je vais le nommer double, parce que le nom signifiait, parce que Dieu m'a béni deux fois plus que je m'attendais. Si vous avez rencontré Joseph, il vous aurait parlé de comment est-ce qu'il était bien, comment Dieu lui avait permis d'oublier. Moi, j'ai oublié tout ça. Mais lorsque ses frères arrivent, quelle scène hallucinante. Il y a une famine et dans leur pays, ils sont en train de mourir de faim. Le père dit, pendant combien de temps allez-vous continuer à vous regarder l'un l'autre? On ne peut rien faire. Retourne en Égypte, il y a un homme là-bas qui peut vous aider. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils se prosternent devant lui. Et c'est certain qu'à ce moment-là, Joseph a été saisi alors qu'ils se prosternent devant lui par l'accomplissement du rêve. Eux ne le reconnaissent pas. Ils ont laissé un gamin dans le fond du puits. Ils ont mis un enfant sur la charrette de l'esclavage vers l'Égypte. Eux ne le reconnaissent pas, mais lui les reconnaît. Et alors qu'il les voit, laissez-moi vous dire de la manière la plus simple, Joseph doit réaliser qu'il n'a pas oublié. Parce que lorsqu'il les voit, la Bible nous dit, il se met à leur parler durement. Lorsqu'il les voit, il est confronté avec lui-même, avec ce qu'il y a dans son cœur. On va lire dans quelques instants. Mais alors que la main de Dieu se tend à Joseph pour faire une œuvre profonde en lui et se tend vers chacun d'entre vous dans le prochain chapitre et ce matin dans le prochain message, nous allons voir comment l'accomplissement du rêve de Dieu, le partage, la proximité, les relations personnelles, l'accomplissement du rêve de Dieu se fait dans trois dimensions et étapes qu'on va voir dans la vie de Joseph et qui sont présentes et offertes par Dieu pour chacune de nos vies aujourd'hui. Trois étapes pour l'approfondissement du rêve de Dieu en nous que j'appelle les connexions divines, le combat et la décision dans le cœur de Joseph, et la communion qui nous permet de découvrir les connexions divines, le combat et la décision, et la communion qui nous permet de découvrir. Voulez-vous juste vous rapprocher de la personne à côté de vous, juste une seconde, et voulez-vous lui dire, il n'y a pas de rêve sans rapprochement. C'est ça la personne près de vous. Il n'y a pas de rêve sans rapprochement. Il n'y a pas d'accomplissement du rêve sans les connexions divines. Joseph va devoir le découvrir, il y a un combat dans son cœur, mais c'est à travers des connexions divines que souvent on ne comprend pas. Je vais vous introduire à une pensée ce matin que la Bible nous enseigne que les pas d'un homme juste, d'une femme juste, les pas de quelqu'un qui se tourne vers Dieu sont ordonnés de l'Éternel. Que Dieu, n'importe quelle personne chrétienne d'une certaine expérience qui regarde à sa vie chrétienne avec un certain discernement et une compréhension du cœur de Dieu et des voies de Dieu et de la parole de Dieu va découvrir que Dieu place des gens, envoie des gens pour faire des connexions divines qui vont avoir une grande influence dans nos vies. Qu'il y a des connexions divines. Dans le texte qu'on a lu, dans les textes de la Genèse, nous avons ce moment où la Bible nous dit que, alors qu'il est accusé injustement, Joseph est pris et il est mis par Potiphar dans la prison. Il est mis dans la prison, pas dans aucune autre prison, mais dans la prison du palais. Dans la prison qu'on appelait le puits. Dans la prison juste au bord du palais. Et c'est pas dans n'importe quelle autre prison, à aucun autre moment, c'est dans celle-là. Et lui ne comprend pas, se sent juste accusé injustement. C'est pas bien, c'est mal, je souffre, je vais mourir ici. La parole de l'Éternel me torture l'âme. Mais en même temps, au même moment, pas dans un autre palais, dans celui-là, il y a deux employés du roi qui font quelque chose qui déplaise au roi, on ne sait pas quoi, mais eux font, à ce moment-là, pendant que lui est dans la prison, eux font quelque chose qui font qu'eux sont envoyés dans la même prison. Et alors que Joseph est en train de les servir et qu'eux se mettent à lui raconter leur rêve que personne ne comprend, Joseph va les aider et eux vont le quitter puis pensent simplement que ces deux gars que j'ai aidés puis qui m'ont oublié. Mais lorsqu'ils retournent en haut, au palais, lorsqu'il retourne en haut au palais et qu'un jour, Pharaon est en train, se lève le matin et il est torturé, il dit, j'ai fait un rêve, puis c'est grave pour le futur de notre nation, il faut que quelqu'un m'explique ce rêve, il y en a-t-il un d'entre vous qui peut l'expliquer? Personne peut lui expliquer. Tout à coup, tu vois celui qui avait été dans la prison qui est là, tu peux presque voir l'ange qui donne une claque en arrière de la tête, tu peux presque voir l'ange dire, hey, parle donc toi. Puis il dit, ah oui, moi j'en ai connu un dans la prison qui interprétait les rêves. Comment est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avez déjà vécu un ange qui vous tape la tête? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, moi j'en ai connu un, va chercher Joseph. Joseph monte en haut, donne l'explication, devient gouverneur du pays. Je suis en train de vous dire que dans des choses banales, dans des relations, vous ne pouvez pas accomplir le rêve de Dieu si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'êtes pas dans cette dimension où je suis en contact avec d'autres personnes, parce que le rêve ne s'accomplirait pas seul, je ne peux pas l'accomplir seul, c'est les connexions divines, les gens que Dieu met sur mon chemin qui vont me permettre l'accomplissement du rêve de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Dites à la personne près de vous, tu as vraiment besoin de moi. Dites ça à la personne près de vous. Connexion divine. Dans la vie de Joseph, mais dans notre vie à nous. Regardez à toute votre vie chrétienne, connexion divine. Des personnes que Dieu a mises sur votre chemin pour votre réveil spirituel, qui vous ont témoigné la foi. Des personnes qui ont été utilisées du Seigneur pour vous, votre fondation chrétienne. Si ce n'était pas d'eux, c'est eux qui ont pris le temps, qui ont été utilisés de Dieu pour vous fonder dans la foi. Pour vos études, pour votre travail. Il y a plein de gens ici. Pensez à un frère qui est ici ce matin, que je me souviens une fois, moi j'étais son pasteur de jeunesse, puis on s'est rencontrés dans un restaurant il y a des années. Il était tout jeune, il sortait de 19, 20 ans peut-être à ce moment-là, puis à cette époque-là, il y avait des couleurs, pas bizarre, mais baroque. Moi je me suis tenu dans le brun et le noir depuis des années, mais il était arrivé avec cheveux bleachés, il avait une casquette mauve, une camisole rose, des pantalons jaunes et mauves, puis il s'assoit, puis on dîne ensemble, c'est son pasteur de jeunesse. Salut Claude, salut, comment ça va, man? Je dis, puis qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Ah, il dit, j'ai rencontré un chrétien, puis il m'a parlé qu'il me verrait vraiment comme agent d'assurance. Je dis, t'as j'ai l'assurance. J'ai pas dit, mais en moi, je me disais, qui va acheter une assurance de ce personnage, cet être? Mais c'était une connexion divine. C'est non seulement devenu sa carrière, c'est devenu sa vie, puis c'est une source de bénédiction, puis il est ici assis ce matin, puis c'est une bénédiction pour d'autres. Ça ne veut pas dire que tout le monde ici va t'appeler à l'assurance, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans notre carrière, dans notre travail, dans nos études, dans la vie chrétienne, dans le ministère, dans tout ce qu'on vit, Dieu veut nous faire faire, comme Joseph dans la prison, veut nous faire faire des connexions divines. Des rencontres avec des gens, que le fait d'être avec eux, je vais faire quelque chose dans sa vie, il va faire quelque chose dans la mienne. J'espère que tout le monde ici comprend. Tous les célibataires, toutes les personnes qui sont à rebâtir leur vie ou à tous ceux qui sont assis ici dans ce lieu, vous avez besoin de comprendre que dans notre mariage, dans notre vie mariée, Dieu ne joue pas la roulette russe avec nous. Même si j'ai connu un échec trop déchirant, Dieu a quelqu'un qu'on peut faire une connexion divine. Moi, j'ai cette assurance. Il y en a qui vont dire, c'est passé date, c'est archaïque. Moi, je crois que Dieu a des gens de préparer pour nous. Je crois que je peux avoir cette assurance que Dieu m'a conduit. Je prie, Dieu conduit mes pas et je rencontre cette femme et cette femme rencontre. Je crois que mon épouse est la femme que Dieu avait pour moi. Je suis le mari que Dieu avait pour elle. C'est une connexion divine. On va marcher ensemble, on va accomplir le royaume de Dieu. Dites, toutes les célibataires qui sont ici, levez votre main. Toutes les célibataires, levez vos mains. Personne assis à côté d'eux, dites-lui, Dieu a quelqu'un sur la terre pour toi. Dis ça. Pas plus. Allez pas plus loin, allez pas plus loin que ça. Restez à la planète Terre, la planète Terre. Dans nos partenaires de vie, dans nos ministères. Je n'ai pas le temps d'aller les illustrations, mais le ministère, c'est des connexions divines. C'est des gens avec qui tu te lis d'amitié. C'est des gens que tout à coup Dieu a mis ensemble pour une œuvre particulière, pour de l'aide dans nos épreuves. Tout le monde ici a des moments de nos vies. On a traversé la vallée de Baca. Puis on se dit, si ce n'était pas de cette personne-là, là, Dieu l'a envoyé sur mon chemin. Puis moi, j'ai juste pu m'ouvrir, juste accepter de m'ouvrir à elle, m'ouvrir mon cœur à cette personne-là. Puis Dieu s'en est servi, ce couple-là, cette famille-là, cet ami-là, dans notre témoignage. Au-delà de toutes les sortes de bonnes choses, comme distribuer des traités, toutes ces choses-là qu'on peut faire pour évangéliser, une des formes d'évangélisation les plus fortes et efficaces, c'est des gens qui marchent tous les matins et se lèvent avec un sens que Dieu est capable de conduire des gens sur mon chemin, que c'est moi qui est supposé leur partager la foi. Des connexions divines, des amis dans une fréquentation de nos enfants, tous les parents qui sont ici. D'être conscient de l'importance de qui va être l'entourage de vos amis, qui vont être les personnes dans leur vie, quelle va être l'influence, qui va être leur cercle d'influence, la pression de l'entourage, que vous pouvez prier, travailler et œuvrer afin que le plus possible, je peux avoir des gens autour d'eux qui aiment Dieu, des jeunes autour d'eux qui ont des valeurs, qui vont... L'entourage, les connexions. Moi, je prie à chaque jour depuis qu'ils sont nés pour mes enfants que tu amènes les bons amis sur leur chemin, les bonnes personnes autour d'eux, les bons conjoints, conjointes éventuellement, que nos enfants et nous-mêmes, nous puissions marcher en sachant qu'on n'est pas un bouchon qui a été lancé sur la mer et on est ballotté au vent. Il y a un Dieu dans l'univers qui dit, si tu te confies en moi et tu es ouvert à cela, j'ai des connexions divines sur ton chemin pour t'aider. Quelqu'un va dire amen. Les connexions divines prennent place lorsqu'il y a une décision de notre part de nous ouvrir. Il y avait un combat dans le cœur de Joseph. Lorsque Joseph dira, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait oublier, puis Dieu m'a donné une double bénédiction, il m'a béni deux fois plus que je pensais. Il est sincère. Mais là, Dieu s'apprête à faire une œuvre plus profonde en lui. Il y a des connexions divines, mais le rêve de Dieu s'accomplit lorsqu'il y a un combat dans mon âme et je prends une décision. Malgré les blessures, malgré les heurts, malgré les déceptions, malgré les meurtrissures que j'ai vécues, je prends la décision de m'ouvrir à nouveau. Lorsque ses frères arrivent et se prosternent devant lui, lui les reconnaît. Une minute avant, Joseph vous aurait dit, « Moi, j'ai tout oublié, Dieu m'a permis de tout oublier. » Mais lorsqu'il les voit s'approcher de lui, il y a un flot qui sort de lui. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Je n'ai pas le temps de lire tous les chapitres. Mais vous lirez les trois prochains chapitres, 41, 42, 43, 44. Vous allez voir que Joseph est méfiant. Il est en colère. Il est blessé. Il va leur faire vivre des épreuves. Il va les tester. Si on regarde le texte, les différentes portions du texte, il les voit, il les reconnaît, mais il se comporte à leur égard comme un inconnu. La diapo 21. Il leur parle durement. Dans le chapitre 42, il prend son frère en otage. Il dit, vous autres, vous allez retourner auprès de votre père, mais moi, j'en garde un. Moi, je garde lui ici. Non, pourquoi tu fais ça? Non, j'ai pas confiance en vous. Vous êtes des espions. Il les traite des espions. Il les menace. Il met un poids sur eux. Il s'éloigne. Puis c'est très, très, très douloureux pour lui. Tu sens que c'est quelque chose qui est douloureux, mais il y a tout ce tourbillon en lui. Il y a une sainte, toutes sortes de saintes, saintes, en a une où il leur dit, vous êtes des espions, vous êtes venus espionner. Non, c'est pas vrai. Et puis, moi, je prends lui en otage. Et puis, eux disent, non, fais pas ça, prends pas notre frère, on est innocent, etc. Et eux le reconnaissent pas. Et l'émotion est tellement forte. Je remercie le Seigneur pour la transparence des Écritures et pour l'humanité de Joseph. L'émotion est tellement forte que tu vois Joseph un masque. Un visage froid, un visage méfiant, il est le patron, il est le boss, puis à un moment donné, il dit, attends une minute, je vais revenir. La Bible nous dit qu'il passe, et là, il s'en va dans un coin, puis tout n'est plus capable de s'empêcher, les larmes sortent de lui. C'est mes frères. Ils m'ont fait tellement de mal. Ils ont parlé mal de moi, ils m'ont mis dans un puits. J'avais rien fait. Mais il s'essuie les yeux, il s'essuie le visage. Puis il retourne, puis il continue. Il y a beaucoup d'entre vous qui comprenez de quoi je parle. Alors, ça va bien ma vie à cette heure, puis je suis béni, puis j'avance, puis j'ai fait, puis j'ai pas besoin de personne, puis j'ai été bientôt blessé dans l'église, j'ai été bientôt blessé dans l'œuvre, j'ai été bientôt blessé. Je vais vous dire, les gens qui sont dans le pastorat, qui sont dans des positions de leadership, qui ont fait une espèce de pacte avec lui-même, qui vont continuer, eux et Dieu, mais je m'ouvre plus à personne, je fais plus confiance à personne. Ce que je vais avoir avec les gens, ça va être cordial, mais superficiel, et je te dis, tu crois un mensonge. Il y a quelque chose que si tu te gardes dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui est perdu, qui est avorté. Le royaume de Dieu va se bâtir par des gens qui vont profondément et véritablement pardonner, aimer, reprendre une chance, recommencer, qu'il n'y ait pas de liste de personnes avec qui je travaillerai jamais, pas de liste de personnes avec qui je pourrai jamais revenir avec, pas de liste de personnes. Non, il y a quelque chose de plus grand. Et Dieu nous a permis ce matin, on pouvait pas planifier ça, c'était pas planifié, mais Dieu a permis ce matin à un frère d'être ici sur cette estrade, qui a eu des gens qu'il connaissait, qui ont assassiné son père, sa mère et ses sœurs et ses frères, et qui s'est tenu ici avec une onction sur sa vie, nous déclarant le Dieu de l'univers qui est si puissant, qui a mis un pardon en lui, de Joseph à notre frère qui a chanté ce matin, à vous et à moi, la puissance de Dieu est assez grande pour me déraciner ce qui me détruirait et me permettre de pardonner. Quelqu'un devrait dire amen. Prends un frère puis le met en prison même. La Bible nous dit qu'il a pris Siméon puis il l'a jeté en prison. Il y a des commentateurs qui disent qu'il se met à faire exactement la vengeance de ce qu'ils lui ont fait. C'est tellement humain de voir Joseph. Non, moi je crois, on est juste venu chercher du blé. Non, moi je crois que vous êtes des espions. Vous allez en prendre un petit peu, vous allez retourner dans votre pays, puis il y en a un autre, vous allez aller chercher l'autre petit frère, Benjamin, qui était son frère. Sa mère avait eu deux feux, son vrai frère, les autres, c'est demi-frère. Benjamin, c'est mon vrai frère. Puis est-ce qu'il est encore vivant? Oui, là-bas. Parfait, vous allez aller chercher. Non, notre père a dit que jamais il pourrait le laisser partir. Jacob avait dit, je peux pas le laisser partir. J'ai perdu mon premier. Il a été déchiqueté par les bêtes. Si je perds lui, je suis si bien de mourir. Et là, Joseph dit, non, il y a une dureté. Joseph dit, non, moi, je vais garder lui. Puis il prend Siméon, puis il le met en prison sous les yeux de ses frères. Alors qu'eux disent, mais on n'a rien fait, puis il s'en va. Il y a plusieurs commentateurs qui disent que c'est certain que dans ce geste-là, il y a Joseph qui, dans ce moment-là, même si tout se fait politiquement correct, même si tout se fait extérieurement correct, il y a quelque chose en Joseph qui dit, puis, comment t'aimes ça, le grand, être en prison? On t'aime ça quand t'as rien fait. À I like it. Renvoie les frères, retourne à leur père. Le père dit, je ne peux pas laisser partir, Benjamin. Regarde, j'ai perdu mon premier fils, si je perds lui, je vais mourir. Ainsi, la Bible nous dit qu'on continue. La famine s'intensifie, les frères reviennent à lui accompagnés de Benjamin. Joseph lève les yeux, jette un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce que c'est là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère, il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit en faisant des efforts pour se contenir. Et il dit, « Servez à manger. » Quelle scène! La famine est trop forte, alors Jacob est obligé de se résigner. Il dit, « Prenez Benjamin, partez avec lui. » Et alors qu'il arrive, Joseph bâtit toute son armure. Puis quand il voit arriver Benjamin, « C'est-tu toi? C'est-tu lui le fils? » En son cœur, il dit, « Le fils de ma mère. » Benjamin, que Dieu te bénisse, mon fils. Dans une minute, il faut que je revienne. On va pleurer toutes les larmes de son corps. C'est lui. Lorsqu'il revient, on va manger ensemble. Il représente tous ces croyants qui sont capables de dire qu'ils se sont réfugiés dans des bénédictions extérieures. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ils sont réfugiés dans la gestuelle et l'extériorité chrétienne alors que leur cœur est brisé. Puis qu'ils ont peur de prendre le risque d'aimer à nouveau puis de s'engager vraiment. Puis alors qu'il s'assied avec eux dans cette cordialité qui masque enfin une douleur profonde, Joseph prend une décision que je vous appelle à prendre en terminant le message ce matin, puis j'invite les musiciens à s'avancer. Chapitre 45, verset 1, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, et il s'écria, « Faites sortir tout le monde! » Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il fait sortir les autres, puis il resta avec ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. C'était tellement fort, les sanglots qui sortaient de lui, que toute la maison s'est arrêtée une seconde pour entendre cet homme-là pleurer. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Eux ne l'avaient pas reconnu. « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères n'étaient même pas capables de lui répondre tellement qu'ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère. C'est moi, votre frère, que vous avez vendu. » pour être mené en Égypte. En cette décision, Joseph dit, « Approchez-vous de moi. » Joseph passe des connexions divines à un combat qu'il avait dans son âme, à une décision qui va le faire entrer dans une communion où il va découvrir des choses extraordinaires en Dieu que rien d'autre ne peut te faire découvrir. Il y a une dimension de l'onction, de la puissance de Dieu, il y a une dimension de l'accomplissement, il y a une dimension de la provision de Dieu qui va seulement être l'apanage de ceux qui marchent dans ce chemin de communion et de pardon, qui vont dire « jamais sans mon groupe », qui vont participer à des groupes Cœur Nouvelle Vie, qui vont se joindre à des hommes, à des femmes. C'est le rêve de Dieu que des dames qui sont ici, qui sont en dépression, se joignent à un groupe, que des jeunes se joignent à un groupe de jeunes, qu'un homme se joigne à un groupe d'hommes d'affaires, qu'un couple aille à des groupes de couples, qu'une personne célibataire aille avec d'autres, et que vous et moi puissions avoir cette conviction, cette décision. Quelle scène lorsque Joseph dit « approchez-vous de moi ». Laissez-moi vous dire que ses frères étaient sous une... Leur conscience les torturait. Ils ne répondaient même pas. Les frères, regardez, ne répondaient même pas. Puis c'est tellement saisissant. Laissez-moi vous dire ceci. Le monde séculier ne connaît pas le vrai pardon. Et l'Église peut avoir des chants, des cantiques, peut avoir de la musique, peut avoir n'importe quoi. Si à l'intérieur de nos vies, dans nos relations les uns avec les autres, on chante l'amour de Dieu et on proclame et on prêche le pardon de Dieu, mais que dans nos relations, on n'a pas plus, on a le même niveau de rancune, puis je vais te revoir, puis je me sépare, puis je te fais plus confiance, puis je te parle plus. Il n'y a rien dans notre message qui va toucher qui que ce soit. Mais il y a un monde séculier qui est affamé, starving, qui est affamé, c'est à l'amour, à une mesure d'amour que vous avez les uns pour les autres, qu'ils vont voir que vous êtes mes disciples. Il y a un monde séculier qui est prêt et qui a tellement soif de gens qui se sont fait du mal, qui ont été blessés, qui ont vécu des épreuves, mais qui en ont sorti en disant, approche-toi de moi, avec l'aide de Dieu, je suis capable d'aimer, je suis capable de pardonner, je suis capable de travailler avec celui qui avait parlé en mal de moi. Dites amen n'importe quand ça vous tente. Je suis capable d'un pardon et d'une communion que Dieu m'a donné de donner. Quelqu'un devrait dire amen. Ça a été, les frères étaient tellement torturés, tellement inconnus à ce genre d'amour-là, que là, il les prend, il les aime. Dans le chapitre suivant, son père va venir, il va prendre son père dans ses bras, il va être capable de, il va s'occuper d'eux, ils vont tous pleurer ensemble, il va être celui qui va pourvoir et aimer sa famille et les aider. Et pendant tout ce temps-là, les frères comprennent pas. Les frères sont pas habitués. Les frères comprennent pas parce qu'à la fin, vous lirez à la fin du chapitre 50, à la fin de sa vie, lorsque le père meurt, Les frères se mettent à avoir peur. Ils disent, à cette heure que papa est mort, il va-tu nous... Peut-être qu'ils avaient vu le film Le Parrain. À cette heure que le Don est mort, est-ce que Vito va se ramasser... Est-ce que Vito... Pas Vito. Est-ce que Fredo va se ramasser dans le lac? Est-ce que vous me suivez? Quand le père est mort, qu'est-ce qui va arriver, là? Le père est mort et je vous dis, est-ce que vous comprenez donc rien? Non, non, moi, je vis dans une autre dimension. Moi, je vis ailleurs. Dieu a fait une œuvre en moi. C'est pas juste que je fais semblant de vous aimer en attendant. Dieu m'a libéré. Dieu m'a donné un amour. Je suis rendu à d'autres choses. C'est plus important pour moi, c'est d'accomplir le rêve de Dieu dans ma vie, dans le pardon et dans la grâce. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un devrait dire amen. Voici la découverte. Voici la découverte que Joseph a faite et que vous devez faire ce matin. Découverte divine de la communion. Joseph a découvert qu'il n'y a pas de protection sans proximité. Que le chrétien qui vit seul, même s'il s'assoit dans une salle avec 3000 personnes, mais qui n'est pas en relation avec d'autres, il est en danger, il est menacé. Tellement de chutes morales, tellement d'échecs, tellement de gens qui tombent dans le péché, qui se font du mal, qui seraient évités. Si votre christianisme en est à un, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler. Vous avez un frère, vous avez une sœur, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler avant que le trouble arrive. Lorsque la tentation n'est qu'un embryon, n'est qu'une pensée, et que tu peux ouvrir ton cœur à quelqu'un qui va te fortifier avec toi, puis s'est exposé, puis dans le secret, le diable fait ses pires œuvres. Et lorsque ça monte en lumière, tellement de choses peuvent être évitées. Tellement de protections peuvent être trouvées. Il n'y a pas de progrès sans partage. À moins que tu partages ta vie avec d'autres, tu ne pourras jamais progresser dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de conquête sans communion. Il n'y a pas de changement sans contact. Tu ne pourras pas changer à moins que tu sois en contact avec des gens qui se déversent en toi et toi en eux. Il n'y a pas d'élévation sans échange. Il n'y a pas d'élimination dans l'isolement. Il n'y a pas de réveil sans rapprochement. Tu ne pourras pas vivre un réveil spirituel si tu n'acceptes pas de te rapprocher. Il n'y a pas de surnaturel dans la solitude. Il n'y a pas d'exploit dans l'endurcissement. Il n'y a pas de renouvellement dans le retrait. Il n'y a pas de révélation dans la rancune. Il n'y a pas d'accomplissement dans l'accusation. Pas d'onction dans l'orgueil. Pas de joie dans le jugement et la justification. Je vous dirais ceci, il n'y a pas de rêve sans risque. Je vous regarde dans les yeux et vous dire, je ne peux pas vous promettre ce matin que si vous risquez d'aimer, si vous risquez de vous donner, si vous risquez de partager, si vous risquez de vous ouvrir, qu'à partir de ce moment, je vous promets que vous n'aurez plus jamais de déception, que vous n'aurez plus jamais de blessure le reste de votre vie. Non, il y a un risque à aimer. Il y a un risque à se donner. Allez, bien-aimé, je ne peux pas aller plus longtemps, le temps ne me le permet pas, mais la tentation de juste dire, m'a fait l'œuvre de Dieu moi-même avec les gens de mon église que j'aime, puis les gens autour de nous qui pensent comme nous, puis qui nous aiment, et en qui on a confiance, puis ça va être moi, ma femme, mes enfants, puis ma gang, jusqu'à ce que Jésus revienne, puis on se verra au ciel, je serai dans mon coin, vous serez dans le vôtre, je sais quoi. C'est pas ça le royaume de Dieu. Puis ceux qui se confinent à ça vont vivre des petites vies. Avec des miettes de ce que Dieu aurait pour vous. Il n'y a pas de rêve sans le risque de dire, Seigneur, tu me déracines ces choses dans moi. Moi, je veux dire aux frères qui m'avaient jeté dans le puits, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. On va bâtir quelque chose ensemble. On va nourrir un pays ensemble. On va répandre le pain dans les nations ensemble. Approchez-vous de moi qui est imparfait et vous qui êtes imparfait. Puis ensemble, nous allons nourrir les nations. Ça va être pour une grande délivrance que nous allons accomplir ensemble, alors que nous sommes rapprochés par la main de Dieu, que ceux qui le désirent disent un grand Amen ce matin et applaudissent ce que Dieu va faire. Allez! Penchez la tête pendant un moment. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Je vais faire un appel très spécifique ce matin. Si vous êtes ici dans ce lieu, je vais faire un appel, pas en avant, pas lever votre main, mais dans votre cœur. Si vous êtes ici et vous dites, Dieu m'a parlé, je dois m'impliquer. Il y a des dizaines de personnes qui devraient ouvrir leur maison. Vous allez remplir le formulaire et dire, appelez-moi, moi je suis prêt à ouvrir ma maison. Je ne serai pas un spectateur. Je suis capable d'ouvrir ma maison un soir par semaine pour que des gens viennent chez nous. Je suis capable d'animer un groupe. Certains vont juste ouvrir leur maison, vous n'êtes pas rendu à cet endroit-là, vous n'avez pas le temps, l'expérience. En ce moment d'animer le groupe, mais vous avez un don d'hospitalité et d'autres qui sont ici. Votre maison, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais vous pouvez aller animer un groupe chez quelqu'un ou chez vous. Mais ce matin, je veux m'impliquer. Ce matin, je vais donner mon nom. Ce matin, je vais faire partie de la prochaine équipe. Je vais entrer avec d'autres dans ce cononia, dans cette communion, dans ce partage. N'oubliez pas cet appel et répondez-y maintenant pendant que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Mais maintenant, voici l'autre appel. Je ne vous demanderai pas de vous avancer ici à l'avant. Mais là où vous êtes, Dieu vous attend comme il attendait Joseph. Combien d'entre vous allez dire ce matin, ce message est pour moi. Je veux confesser ce matin. Je veux admettre que j'ai été blessé, que j'ai de la difficulté à faire confiance, que j'ai été tenté par la pensée de simplement faire ma vie isolée chrétiennement. Moi, mon mari, moi, ma femme, moi, mes trois amis, puis on va aller avec ça. Mais que ce matin, je dis, Seigneur, viens déraciner ces choses-là en moi. Ce matin, je dis, Seigneur, viens m'aider, Seigneur, viens me fortifier, viens me guérir. Des gens qui ont senti avoir perdu la capacité de faire confiance à nouveau, de s'impliquer à nouveau, la capacité d'aimer à nouveau, la capacité de se donner, de s'ouvrir. Vous êtes comme Joseph, il y avait vous extérieur dans l'église, mais dans la chambre de votre cœur. Derrière la porte où Joseph sanglotait, s'essuyait les yeux puis revenait en ayant remis son masque. Vous dites, j'ai pleuré souvent à côté de Joseph dans ce lieu-là. Mais ce matin, je veux quelque chose de plus vrai. Je veux que Dieu me guérisse. Je veux que Dieu, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Je viens vers toi, Seigneur, ce matin. Si vous êtes ici, vous dites, ce message est pour moi. J'avais des difficultés, j'avais une tentation d'isolement, une tentation de simplement vivre ma vie seule, une tentation de ne pas me donner à d'autres. Ce matin, je vais demander pardon à Dieu. Surtout, je vais lui demander de me toucher, de me guérir, de me consoler. J'aimerais vous demander de lever votre main là où vous êtes ce matin. Partout à travers ce lieu. Des dizaines de personnes, peut-être centaines, lèvent leurs mains ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble que ce message, car ce message est pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Étendre nos mains vers le Seigneur et dire, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Que vous puissiez aller vers lui et dire, voici, prends mon cœur, Seigneur. C'est auprès de Dieu.
C'est auprès de Dieu.
Ensemble.
Que je veux me tenir. Il est mon,
Seigneur. Il est mon roi.
C'est auprès de Dieu que je peux ressentir.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.